Bienvenue, vous écoutez Droit vers l'Europe, une série de podcasts proposés par le ministère de la Justice pour aider les professionnels du droit à appliquer la législation de l'Union européenne. En compagnie d'un expert, nous revenons sur une procédure en matière familiale, civile et commerciale. Il partage avec nous son expérience pour une meilleure application des règlements européens. L'épisode 7 est consacré à la signification et la notification des actes dans l'Union européenne. Bonjour Lionel Decote, vous êtes huissier de justice. Vous intervenez régulièrement pour la Chambre nationale des commissaires de justice sur les questions européennes. Vous êtes donc familier avec la procédure européenne de signification et de notification des actes. Pouvez-vous nous parler de cette procédure ?
Bonjour. La question effectivement de la signification d'un acte dans un État membre de l'Union européenne a longtemps fait peur. Pendant très longtemps, la signification faisait penser à la procédure d'exéquature. Une procédure longue, coûteuse, fastidieuse. En 2007, la matière s'est largement simplifiée. Mais des points demeurent toujours en suspens et des difficultés persistent tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. On peut donc espérer que la refonte de ce règlement 1393 et l'application du nouveau règlement 2020, à partir du 1er juillet, va répondre aux questions des praticiens et solutionner un certain nombre de problèmes. Et surtout, l'avenir, c'est poser le stylo et le papier. C'est d'ailleurs l'esprit même du texte, le règlement de 2020. Le principe, c'est le numérique et l'exception, le papier. À titre indicatif, cette procédure n'est pas anecdotique. En 2018, de mémoire, 3 millions d'actes ont dû être signifiés entre États membres de l'Union européenne. La procédure se simplifie et elle s'améliore également. J'en ai échangé quelques mots avec un de mes confrères luxembourgeois il y a quelques semaines et il était assez étonné sur le fait que aujourd'hui signifier un acte dans un autre État membre, c'est presque plus simple et plus rapide qu'au sein d'un même État membre.
Que doit donc faire un praticien pour faire signifier des actes dans l'Union européenne ?
L'objectif, c'est la sécurité et la rapidité de la transmission. Concernant le champ d'application, rien ne change. On reste toujours en matière civile et commerciale. Par contre, ce sont les moyens qui évoluent. Aujourd'hui, on utilise un outil formidable, c'est le portail e-Justice. Alors, je dis formidable parce que sur ce portail, on trouve l'ensemble des formulaires sous différents formats et dans toutes les langues. Il n'y a plus qu'une chose à faire, les remplir. Néanmoins, des difficultés persistent et trop souvent, des formulaires sont manquants. Et notamment, le principal manquant, c'est l'accusé de réception qui pourtant est crucial pour la procédure.
Quelle autre difficulté peut rencontrer le praticien ?
Autre source de difficulté, c'est de trouver le confrère compétent pour signifier l'acte. Pourtant, là encore, on a une solution, c'est l'annuaire électronique FAB3, Find a Bailiff 3. C'est un annuaire où se trouvent tous les huissiers avec leurs compétences territoriales. Donc, de manière numérique, il suffit de rentrer l'adresse du destinataire de l'acte et le site FAB3 nous donne l'autorité compétente pour le signifier. Si on n'utilise pas cet annuaire, on s'expose à un danger, c'est que l'acte soit transmis à un confrère qui ne soit pas compétent, ou alors inversement, on peut recevoir un acte à signifier pour lequel on n'est pas compétent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? On met le dossier sous la pile, et pas du tout, c'est pas ça la solution. Là encore, il existe sur le portail de justice un formulaire dédié qui permet de résoudre cette problématique. Et si la question fait peur, c'est aussi à cause de la langue. Alors, les Français, on n'est pas particulièrement doués en la matière, mais pas besoin d'être bilingue pour signifier un acte dans un autre État membre de l'Union européenne. En effet, sur le portail e-Justice, tous les formulaires sont répertoriés dans toutes les langues avec la même nomenclature. Donc, si le numéro 1 de la nomenclature, par exemple, est l'entité requérante, en français, on trouvera exactement le même numéro 1 en allemand ou en espagnol, etc., dans toutes les langues. Pour rester sur la langue, l'autre problème, c'est la traduction. Alors, je ne sais pas si j'ai qualité pour donner des conseils ou quoi que ce soit, mais juste, je vais vous faire part de ma pratique. Me concernant, je demande toujours à ce qu'il y ait une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Les sites du style Google Trad, c'est très bien si on a envie d'envoyer un texto à un copain qui est en Espagne ou aux Pays-Bas. Mais là, on est quand même en matière de signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires. Donc, la traduction par une personne assermentée est essentielle.
Vous nous avez donné l'exemple de la traduction. Y a-t-il d'autres réflexes à avoir lorsqu'on reçoit un acte ?
Le premier réflexe, c'est pas enterrer le dossier. Contrairement à ce qui a pu être pratiqué pendant un certain nombre d'années, il faut surtout pas faire ça. Plus sérieusement, on se connecte au portail Justice et au portail FAB3. Ensuite, on choisit les formulaires qu'il convient de remplir. On les remplit de manière dactylographiée. Et je dis bien dactylographiée parce qu'on voit encore trop souvent des formulaires remplis de manière manuscrite. Et vous n'imaginez pas la source d'erreur que cela peut créer. Un chiffre, par exemple, peut être écrit de manière incertaine, un 1 ou un 7, par exemple. Et c'est une source d'erreur. Donc, il faut vraiment insister sur le fait que les formulaires doivent être écrits de manière dactylographiée directement sur le portail. Autre réflexe, prendre attache avec l'autorité centrale. En effet, en cas de difficulté, ils sont toujours là pour nous aider. Et la nouveauté du règlement 2020, c'est qu'on peut obtenir des compléments d'information sur l'adresse du destinataire de l'acte. Aussi, dans les mois à venir, il faut savoir que les modes alternatifs de signification, autres ceux qui passent par autorité requérante, centrale et requise, continuent d'exister. C'est-à-dire que la voie diplomatique, la voie directe, tous ces modes alternatifs demeurent en vigueur.
La refonte du règlement entre en application le 1er juillet. Quels sont ses apports ?
À la lecture de ce nouveau règlement, on peut espérer que les points qui portaient à discussion sur le règlement 1393 vont être solutionnés. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au moins une partie d'entre eux vont l'être. Tout ça pourquoi ? Parce que le règlement 2020 s'est largement inspiré de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne pour faire sa refonte. Jurisprudence qui, au passage, est relativement peu nombreuse, alors que pourtant, ce règlement de signification est l'un des plus utilisés au quotidien.
Pouvez-vous conclure en quelques mots ?
Pour conclure, ne pas tourner le doigt à la matière. Et puis, pas d'inquiétude pour les réfractaires au tout numérique. Le procédé e-codex, c'est-à-dire la plateforme centrale par laquelle tous les actes vont passer, va se mettre en place petit à petit. Ça veut dire que depuis le 1er juillet, pas d'inquiétude, on peut continuer à utiliser les formulaires comme on le faisait sous le règlement 1393. On les transmet en respectant les bonnes pratiques. On n'est pas encore au tout numérique avec transmission digitale et signature numérique. Le système e-codex va se mettre en place petit à petit. D'ailleurs, on parle de refonte du règlement 1393 et non pas d'une fracture. On ne balaye pas tout d'un revers de la main. Les choses vont se mettre en place petit à petit.
Merci Lionel Decote. Les podcasts Droit vers l'Europe du ministère de la Justice sont cofinancés par la Commission européenne. Retrouvez tous les épisodes sur justice.gouv.fr et sur les plateformes d'écoute.